I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditorices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Dans Kif Taras, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs, tout ça sans aucun complexe.
Et aujourd'hui, on va parler de privilèges, hein, pas dans le sens de l'ancien régime, les droits de la noblesse et du clergé, mais selon Larousse, dans le sens d'un avantage, d'une faveur conférée à une personne ou à un groupe. Et dans cet épisode particulier, on va se pencher sur les privilèges des personnes perçues comme blanches. Donc, on appelle ça la blanchité. C'est une construction sociale, hein, c'est aussi une race sociologique. Et ça tombe bien parce qu'on a avec nous un sociologue avec qui on va checker les privilèges blancs.
Nous avons donc le plaisir de recevoir Éric Fassin qui a accepté de nous livrer son expertise et son expérience. Éric, tu es sociologue et professeur de sociologie à l'Université Paris 8, auteur de nombreux ouvrages en la matière. Bonjour.
Bonjour Éric.
Merci d'avoir répondu présent. Alors dans Kif Taras, on a un petit rituel. On demande aux personnes qui acceptent de venir nous rejoindre de se situer sur le plan racial. Donc, par exemple, moi je suis une femme asiatique et Rokaya, elle se définit comme une femme noire. Est-ce que toi, Éric, tu te définis? Et si oui, comment?
Je ne me définis pas exactement, mais en revanche, j'énonce le fait que j'ai des propriétés. Alors je vais expliquer la distinction, mais la propriété, en l'occurrence, c'est d'être blanc. Je ne le revendique pas comme une identité, donc ce n'est pas une définition positive, ce n'est pas non plus une définition négative, c'est-à-dire que je ne m'excuse pas d'être blanc, pas plus que je ne m'en vante. En revanche, c'est une propriété pertinente. Et c'est une propriété pertinente en général, mais en particulier quand on parle des questions raciales. Parce que, par exemple, quand on est enseignant et qu'on est face à un public étudiant, si à aucun moment n'intervient aucune mention de ma propre couleur de peau, c'est-à-dire de la manière dont je suis identifié par les autres, eh bien, ça donne l'impression que ça ne me concerne pas et que ça concerne certains et pas d'autres. Or, un des enjeux, et en particulier pour ce qui concerne ce dont on va parler aujourd'hui, la blanchité, c'est de montrer que la racialisation, c'est-à-dire le fait qu'on vit dans une société traversée par la question raciale, eh bien, ça ne concerne pas simplement les autres, entre guillemets, c'est-à-dire les racisés, mais que tout le monde est racialisé, à commencer par les blancs.
Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as découvert que tu étais perçu comme blanc ?
Ça dépend des contextes, mais quand j'ai passé du temps, il y a longtemps, au début de l'âge adulte, quand j'ai passé un an et demi en Côte d'Ivoire, bah, il est très clair qu'en Côte d'Ivoire, c'était évident pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y avait des catégories, et que eh bien, je ne pouvais pas simplement dire « non, je ne suis pas blanc, finalement, je suis juste un être humain, etc. » Ça ne changeait rien au fait que pour tout le monde, bah, j'étais classé de cette manière-là, sauf lorsque j'ai eu des problèmes de santé et que les gens pensaient que j'étais Libanais parce que ma couleur de peau changeait un petit peu avec l'hépatite. Donc à ce moment-là, effectivement, je m'apercevais que l'apparence, ça compte. Mais il n'y a pas que l'apparence, il y a en fait toutes les propriétés sociales qui vont avec, c'est-à-dire la manière dont on est traité et la manière dont on peut se comporter.
Alors on parle aujourd'hui de blanchité, en particulier du privilège blanc. Est-ce que tu pourrais, Éric, nous donner une définition du privilège blanc?
Ben, je crois que ça renvoie d'abord à une conception de la race avant d'être celle du racisme. C'est-à-dire que, en fait, si on parle de race, ça veut dire qu'on est dans une société qui produit de la race, qui assigne des gens à des places. Et ces places, elles ne sont pas symétriques parce que cette production raciale, eh bien, c'est de la domination. Et donc, dans la domination, il n'y a rien de symétrique. On est d'un côté ou de l'autre. Alors, selon les circonstances, on peut être d'un côté puis de l'autre. Par exemple, parce qu'il n'y a pas que la domination raciale, il y a aussi la domination de classe, il y a aussi la domination sexuelle, etc. Donc on peut être dans plusieurs positions à la fois. Toutefois, du point de vue de la domination raciale, à un moment donné, eh bien, on est renvoyé au fait qu'on est plutôt d'un côté que de l'autre. Et en l'occurrence, la blanchité, eh bien, c'est le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir conscience du fait qu'on est blanc.
C'est un luxe, en fait, de ne pas...
C'est à proprement parler un privilège, c'est-à-dire que là, vous me posez la question de mon identification raciale et j'y réponds, mais c'est très rare.
Mmh. T'es pas obligé, en fait, dans ta vie quotidienne...
Ça ne m'arrive jamais. Mmh. Donc là, je choisis d'y répondre et j'accepte tout à fait la question.
Merci.
Mais dans mon expérience ordinaire, quotidienne, c'est pas le cas. Donc je crois que ça, c'est un privilège très inégalement distribué. Il y a beaucoup de gens à qui on demande d'où ils viennent. Il y a beaucoup de gens à qui on fait des remarques sur leur apparence, etc. Dans mon cas, si on fait des remarques sur mon apparence, ce ne sera pas, en général, en termes racialisés, ce sera selon d'autres propriétés.
Et justement, quand on parle de privilèges, souvent il y a un malentendu parce que des personnes qui sont blanches vont dire, parce qu'elles sont dans des situations sociales désavantageuses, vont dire qu'elles n'ont pas de privilèges parce qu'elles galèrent sur le plan économique, qu'elles ont des problèmes de santé ou des problèmes familiaux.
C'est pour ça qu'il est important de penser au fait qu'il y a plusieurs logiques de domination. Mm-hmm. Il n'y en a pas qu'une. Mm-hmm. Donc, on peut repenser au travail de W.E.B. Dubois qui parlait en fait du salaire psychologique de la blanchité. Et ça a été repris par un chercheur qui a parlé de salaire de la blanchité. Le salaire de la blanchité, pour David Rodiger, c'était quelque chose d'important parce que ça permettait de comprendre comment, en fait, il y a à l'intérieur d'une même classe, c'est-à-dire avec les mêmes propriétés économiques, des différences qui sont des différences symboliques qui peuvent se traduire aussi par des différences matérielles. Autrement dit, ça compte. On ne peut pas faire comme si la couleur de peau n'avait pas d'incidence, y compris sur la position à l'intérieur d'une classe sociale. Donc, il n'y a pas d'un côté les vrais privilèges et de l'autre les faux privilèges. Il y a plusieurs types de privilèges et à l'inverse, plusieurs types de handicaps sociaux ou plusieurs types de pénalités sociales qui peuvent se cumuler, s'articuler. On peut avoir certains avantages et certains inconvénients, certains privilèges et certains handicaps sociaux. Donc, je crois qu'il est important de ne pas simplifier les choses comme si c'était soit il y a de la classe, soit il y a de la race. En réalité, c'est enchevêtré. Et c'est enchevêtré dans l'expérience de tout le monde. Et pas simplement dans l'expérience telle qu'elle est inscrite dans les papiers, parce que la classe, effectivement, elle est prise dans nos recensements, mais pas la race. Mais en revanche, dans notre expérience de tous les jours. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler le salaire de la blanchité. C'est-à-dire qu'on n'en est pas tous au même point. Par exemple, on n'a pas tous à s'expliquer ou à se justifier.
Ça veut dire que si on doit parler de privilèges blancs, il faut comparer les personnes blanches à des personnes qui sont dans la même situation socio-économique ou sociale pour pouvoir comprendre en fait ce qui dans leur blanchité en fait garantit un privilège. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est des gens qui disent « Oui, mais regardez, si vous comparez un pauvre Français de zone périurbaine avec Christiane Taubira ou Lilian Thuram, on voit bien qu'il y en a un qui... » Enfin, certains sont privilégiés et pas d'autres, alors qu'en réalité, il faudrait les comparer...
À condition égale.
Ouais, c'est ça, ou comparer une ministre de la Justice blanche qui n'a jamais été traitée de singe, contrairement à Christiane Taubira.
Ben, c'est la raison pour laquelle il y a une bataille au sein des sciences sociales pour affirmer l'importance d'une pluralité de logique de domination. Mmh. Et c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Quand on parle d'intersectionnalité, on est en train de dire que nous ne sommes pas définis par une seule propriété en dernière instance, comme on avait tendance à le dire traditionnellement dans un contexte marxiste. Aujourd'hui, on sait bien qu'il n'y a pas que la classe, il y a aussi la classe. On peut même dire, si on veut, il y a d'abord la classe. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas que la classe. Il y a, par exemple, la race. Mais il y a aussi, par exemple, le genre. Et il y a encore d'autres propriétés. Évidemment, par exemple, le handicap, ben, c'est quelque chose qui peut faire des différences très importantes. Donc, on a intérêt à penser l'ensemble des logiques de domination, et en particulier pour ce qui joue autour de la race, d'une part, autour du genre, d'autre part, eh bien, ce qu'on voit, c'est que ce sont des propriétés naturalisées. C'est-à-dire, ça a l'air naturel, ça a l'air normal, c'est ancré dans les corps. Et donc, il est très important de montrer que c'est social, donc de sociologiser, de construire comme des questions sociales ces questions raciales ou sexuelles.
Alors moi j'adore parce que j'ai l'impression d'être dans un cours magistral particulier.
Ouais,
non, c'est super comment tu parles.
En fait,
parce que...
ouais, on s'organise un petit cours.
C'est super. En fait, il n'y a pas beaucoup de distance, cool, contrairement aux amphithéâtres. Et donc j'adore. Et alors du coup, je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Dans la logique de domination, il n'y a que deux côtés en fait. Il y a d'un côté et de l'autre. Donc en fait, quand tu dis qu'on est des déracisés, ça veut dire qu'il existe des racisants. Et on dit rarement ce mot. D'ailleurs, je pense qu'on a une invitée qui en a parlé.
C'était Maxime Servul. Hein. Voilà. Il citait Colette Guillaume.
Et ce mot racisant, ça veut aussi... Enfin, je pense qu'il y a une vraie réticence à nommer ce mot. Mais c'est comme dans la même manière que quand on parle de féminisme dans la domination de genre, les femmes disent « Non, moi, je suis hyper féministe, mais je ne suis pas contre les hommes. » Et ouais. elles se sentent obligées de préciser ça parce qu'il y a cette idée que quand tu subis une oppression, de ne pas jeter l'opprobre sur l'autre partie, parce que du coup ça nous met en conflit, et de dire non mais moi je suis pour la paix des ménages, la paix dans le monde, et que du coup je dis ça, mais c'est pas contre toi que je dis ça, Eric, tu vois.
D'abord, moi j'ai rien contre les Blancs, pour des raisons susdites. Et ensuite, ce que je dirais, c'est que, en fait, pour ma part, j'essaie d'éviter en général de dire les Blancs. C'est pour ça que j'utilise plutôt blanc comme adjectif que comme substantif. Parce que, en fait, on est blanc, on a des avantages en tant que blanc, on a un privilège blanc. Mais si je dis les Blancs ou si je dis je suis un blanc, eh bien, ça donne l'impression que c'est une substance. C'est un substantif, donc on croit que c'est une substance. Et c'est pareil pour les Noirs, bien sûr, ou c'est pareil pour les Arabes, ou c'est pareil pour n'importe quelle catégorie. Je pense qu'il y a un danger à croire que c'est des propriétés. Or, en fait, ces propriétés, elles ne sont pas substantielles, elles sont relationnelles. C'est-à-dire que c'est dans des relations que ça se joue. Donc, c'est pour ça que la question de privilège est importante, parce que c'est par rapport à d'autres. Donc, ce n'est pas en soi. Et c'est ça... une des différences entre une approche sociologique et une approche raciste de la race. Une approche raciste substantialise ses propriétés comme si finalement c'était notre vérité ultime. C'est une vérité sociale. C'est une vérité sociale qui peut bouger dans le temps. C'est pour ça que, par exemple, sur la blanchité, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que les travaux qui ont beaucoup marqué, c'est un livre, par exemple, qui dit « Comment les Irlandais sont devenus blancs ?» Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça n'est pas une propriété stable. C'est une propriété qui peut être construite ou déconstruite, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un côté ou de l'autre. Les Irlandais sont devenus blancs aux États-Unis. Mais c'est parce qu'ils n'étaient pas blancs au départ, c'est-à-dire qu'ils avaient été en quelque sorte construits comme une population coloniale par les Anglais. Donc ça bouge, et ça peut encore bouger. C'est ce qui se passe en ce moment aux États-Unis autour des Arabes. Les Arabes américains, avant le 11 septembre, ils étaient blancs. Est-ce qu'après le 11 septembre, ils sont encore blancs ? C'est pas évident du tout. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des propriétés substantielles, ce sont des propriétés qui dépendent du contexte historique. Donc, pour ma part, j'aurais tendance à ne pas désigner un groupe. Par exemple, je n'utiliserais pas, pour ma part, l'expression racisant, parce que ça sous-entendrait qu'il y a des volontés des individus de faire ceci ou cela. En revanche, être entièrement pris dans cette racialisation, et y compris en avoir les bénéfices, ça, je crois que c'est ce qu'il faut nommer. C'est-à-dire, on est pris dans des logiques, et le terme aujourd'hui fait beaucoup sursauter sur les réseaux sociaux, systémiques, structurelles. Ce qui est intéressant, c'est justement ces réactions virulentes contre l'idée que le racisme, ce n'est pas seulement des intentions individuelles, c'est-à-dire des types pas sympas face à des gens qui seraient des victimes, etc., mais des logiques sociales dans lesquelles nous sommes pris, au-delà de notre bonne volonté, au-delà de nos bonnes intentions, et en gros, même si on est des gens très sympas, eh bien on est quand même pris dans ces logiques raciales.
Alors du coup, on va parler des avantages conférés par la blanchité, les privilèges. Et on pense évidemment aux besoins basiques de tout un chacun quand on parle de privilèges. Donc manger, dormir, se sentir en sécurité, trouver un travail, un logement, ne pas être contrôlé en fonction de son faciès par les forces de l'ordre. Mais il y a encore tout un éventail d'avantages quotidiens conférés par la blanchité. Et pour ce faire, on va se référer à la liste de Peggy McIntosh, qui est une chercheuse américaine blanche, qui a énuméré... 46 privilèges dont elle dispose, c'était dans un article en 1988, rédigé en 1988. Elle était dans un centre de recherche en études de genre à Wellesley College, dans le Massachusetts. Donc le premier avantage qu'elle décline, c'est « Je peux, si je le désire, m'arranger pour être en compagnie de gens de mon groupe racial la plupart du temps. » Donc là, on parle de, enfin, des personnes blanches qui sont ensemble, donc de... on dirait, selon le vocabulaire du temps, le communautarisme blanc, donc qui est du coup normal, alors que le communautarisme des personnes minoritaires est souvent vu comme problématique.
C'est paradoxal, mais c'est vrai. Mais c'est paradoxal parce que, en un sens, le privilège blanc fait que, effectivement, qu'est-ce qu'on décrit, par exemple, dans les études urbaines aux États-Unis, c'est le white flight, c'est-à-dire les blancs qui s'en vont quand arrivent des noirs. Et donc, ils quittent le quartier, et donc on voit des quartiers basculer du blanc au noir lorsque les blancs s'en vont. Mais c'est les blancs qui s'en vont. Donc, le communautarisme blanc est un communautarisme choisi. Le communautarisme minoritaire, c'est-à-dire des minorités raciales, qui peuvent être noires ou autres, eh bien, en général, il n'est pas choisi, il est subi. C'est-à-dire que ça s'appelle la ségrégation. Je crois qu'il est très important, à chaque fois qu'on parle de ces questions, de ne pas oublier que ça n'est pas symétrique. Le principe même de la domination, c'est qu'on ne peut pas l'inverser en disant « au fond, tout ça, c'est la même chose ». C'est tous les débats actuels sur le racisme anti-blanc. Lorsqu'on parle de racisme anti-blanc, on fait comme si tout ça était réversible, comme si finalement, dans un sens, dans l'autre, c'est un peu la même chose parce que c'est pas bien. Je crois qu'il est important de bien comprendre que le communautarisme blanc est un communautarisme choisi et que le communautarisme supposé des minorités, eh bien, il est l'effet d'une ségrégation et donc il est pour l'essentiel subi.
Et pourtant, quand on est issu d'une minorité, on nous dit souvent, moi je suis d'origine asiatique, on me dit souvent, mais vous restez entre vous. Comme si c'était quelque chose d'assez naturel pour les minorités de s'assembler avec ceux qui les ressemblent. Comme si, d'ailleurs, c'est un reproche hein, souvent. Hein, vous restez entre vous, c'est opaque, vos communautés, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on ne vous connaît pas, vous ne nous parlez pas, vous n'échangez pas avec nous. Donc il y a vraiment un reproche, c'est, comme tu dis, c'est asymétrique. Et là, moi, en tout cas, je le ressens en tant que. C'est-à-dire que je pense qu'en tant que personne blanche, on ne dit jamais vous restez entre vous.
En plus, surtout qu'il y a un truc où tu as l'impression que. Il suffit que tu sois trois asiatiques et on te dit que tu...
Deux,
voilà.
Non mais deux.
Deux, voilà, ça c'est déjà trop. Et qu'a priori, si t'es asiatique, qu'il y a de fortes chances que ta famille soit asiatique, donc que tu sois entouré de personnes d'origine asiatique sans que ce soit un mouvement volontaire. Et c'est vrai que les mêmes attitudes de la part de personnes blanches ne sont pas du tout perçues comme étant actives et comme étant excluantes, tu vois. Alors que tous les lieux de pouvoir sont quasi exclusivement blancs.
Et d'ailleurs, moi, dans mon développement personnel, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'arriver dans une pièce où il y avait une autre personne asiatique et de mettre exactement à l'opposé de cette personne-là pour ne pas qu'on croie que naturellement j'allais lier des liens avec cette personne-là juste parce que en fonction de sa couleur de peau. Et c'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose de très conscient pour moi. C'est-à-dire que enfin c'était inconscient, mais aujourd'hui j'analyse ces choses-là. Qu'on me dise « Ah, tu connais Caroline Nguyen ?» Non, je la connais pas, elle est pas de ma famille. Et puis surtout, je veux pas la connaître parce que tu vois, je veux pas que tu me poses cette question-là.
Mais je crois que tout ça renvoie précisément au privilège blanc, c'est-à-dire de ne pas avoir à se poser cette question-là. Finalement, quand on est blanc, on n'a pas à se justifier du fait que ses amis sont blancs. Ce qui souvent est le cas, pour des raisons sociologiques objectives qui vont bien au-delà des intentions racistes ou de la bonne volonté, ou etc. Mais parce qu'il y a des enchaînements de fonctionnements sociaux qui font qu'on a tendance à se retrouver avec des gens de la même classe sociale et que cette classe sociale, eh bien, elle est très inégalement répartie en termes raciaux. Voilà. Donc, je crois qu'il y a là-dessus un enjeu qui est qu'est-ce qui est évident et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui pose problème et qu'est-ce qui pose pas problème? C'est la vieille question. Lorsqu'on est blanc, on se dit pas qu'on est un problème, mais en revanche, lorsqu'on appartient à une minorité, on se dit toujours qu'on est un problème, c'est-à-dire que quelqu'un risque de nous dire on est un problème. Et je crois que c'est ça l'enjeu de ces normes, c'est qu'est-ce qui va de soi et qu'est-ce qui va pas de soi? Qu'est-ce qui est évident et qu'est-ce qui est pas évident? Et c'est ça qui a un coût psychologique ou qui, à l'inverse, apporte des bénéfices psychologiques. Avoir à se poser des questions ou pas. Mais ce n'est pas propre aux questions raciales. Il se joue exactement la même chose pour ce qui concerne les différences de genre. C'est-à-dire que, en un sens, les femmes ont besoin de se poser la question, on le voit bien en politique, de leur apparence beaucoup plus que les hommes. C'est-à-dire, est-ce qu'elles se comportent de manière trop féminine ou pas assez ? Les hommes ont beaucoup moins ce problème. Et je crois que c'est ça la position majoritaire. C'est vrai dans le domaine racial, c'est vrai dans le domaine sexuel, c'est vrai dans tous les domaines. La position majoritaire, c'est de ne pas avoir à se poser de questions, ce qui est un bénéfice parce que ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'énergie. Ça peut aussi être vu comme intéressant pour les minorités d'avoir à se poser des tas de questions parce que peut-être que ça amène davantage à s'interroger sur l'ordre social au lieu de le trouver normal. C'est-à-dire que le problème dans les sociétés dans lesquelles on vit, c'est qu'on a tendance à trouver que le monde est normal. Je pense qu'il est intéressant de s'interroger là-dessus et de se dire, vraiment, est-ce que c'est normal ? Ou bien est-ce que c'est normé ? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des normes qui nous sont imposées ? Et à ce moment-là, quels sont les coûts pour tout le monde ?
Alors, il y a un autre privilège qui a été énoncé par Peggy McIntosh, c'est le numéro 3 qui dit « Si je dois déménager, je peux être pratiquement sûr de louer ou d'acheter un logement dans un quartier que je peux me permettre et où j'ai envie de vivre. » Donc, c'est souvent une question qui se pose, le fait d'avoir le choix du logement. La plupart des gens se posent juste la question de leurs moyens économiques, alors que d'autres ont conscience du fait que même s'ils ont les moyens, le capital qui leur permet d'accéder à un type de logement, en fait, ils peuvent être rejetés pour d'autres raisons qui sont des raisons de leur apparence physique, de leur nom de famille, etc. etc.
C'est précisément la raison pour laquelle, quand on appartient à une minorité raciale, c'est-à-dire quand on est susceptible d'avoir ce genre de problème, eh bien, on ne se pose pas seulement des questions économiques. Mmh. C'est la raison pour laquelle on est amené à dire, lorsqu'on a cette expérience, vous savez, il n'y a pas que la classe. Mmh. Donc, tous ces débats, ils ne sont pas abstraits. Ils renvoient à une expérience. Des gens qui savent très bien qu'à revenu égal, ils auront plus de mal à avoir un appartement, ou bien à l'avoir à l'endroit où ils voudraient être, ou bien à ne pas être parqué avec d'autres de la même catégorie raciale, c'est-à-dire le communautarisme public qui enferme les gens dans les mêmes endroits. Donc, le fait d'avoir à prendre conscience de tout ça, ça a des conséquences sur les théories implicites que tout le monde peut avoir. C'est-à-dire, en fait, tout le monde fait de la sociologie. Tout le monde se pose des questions sur l'ordre du monde, comment ça marche. Et lorsque on s'aperçoit que, par exemple, avec un certain niveau d'études, eh bien, on n'a pas accès à certaines choses, ou bien qu'avec un certain niveau de revenus, on n'a pas accès à certaines choses, on est bien obligé de se dire, il n'y a pas que la classe. Donc, il se trouve qu'on a plus de chances de présumer qu'il n'y a pas que la classe quand on en a fait l'expérience.
Alors, j'aime bien aussi le corollaire du numéro 3, c'est le numéro 4, qui dit « Je peux être à peu près certaine que mes voisins, dans ce lieu où j'ai choisi de vivre, seront soit neutres, soit aimables avec moi. » Parce qu'une fois qu'on a le logement, et il y a aussi l'environnement immédiat. C'est-à-dire que ne pas être la famille d'Asiates ou de Noirs ou qui vient s'installer là et qui va être stigmatisée et où on te pose des questions comme « à combien ils vivent là-dedans » évidemment le bruit et l'odeur, hein, puisque c'est des choses qui ont été médiatisées. De ne pas être le seul élément le premier élément qui va faire venir d'autres éléments et qui du coup faire baisser le prix au mètre carré du coin, parce que du coup il y a quand même ça, et de pas être chaque fois, s'il y a un problème dans les couloirs, c'est peut-être eux parce que je les ai vus la dernière fois ils faisaient ça. Enfin, il y a vraiment cette question des voisins, du voisinage, d'être accepté en tout cas en tant que non blanc dans un environnement.
Et puis le fait que tu doives te surveiller du coup pour pas correspondre aux attitudes qu'on prête à ton groupe, enfin du coup si t'as des enfants tu vas faire en sorte qu'ils soient moins brillants que les autres. Enfin, tu vas plus les contraindre, en fait, que parce que tu vas te dire, on est la seule famille asiatique ou noire ou arabe, et donc, du coup, on va nous observer et on va nous attribuer, en fait, des défauts. Quoi.
Au point que, quand on dit, ah non, mais vous, on vous aime, enfin, vous êtes pas, c'est vraiment pas comme les autres, hein, parce que là, d'habitude, vous êtes vachement plus brillant, ouais. Mais là, quand même, vous êtes super. Et ça devient un compliment, parce qu'on est tellement dans ce truc.
Vous êtes quasiment blanc.
C'est ça.
Vous pourriez être blanc.
Encore un petit effort. Mais je pense que je suis bien sûr tout à fait d'accord. J'ajouterais qu'il ne faut pas surévaluer la qualité du voisinage entre blancs. Mais, y compris parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs, comme par exemple le fait d'être homosexuel, ou comme par exemple le fait d'être jeune, etc. Il y a toutes sortes de propriétés qui peuvent entrer en ligne de compte. Il n'y a pas que la question raciale, même si, d'abord, on est là pour en parler, mais même si elle est très importante. Donc, je crois qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que le statut d'exception, eh bien, il pose problème. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'on voit bien ce que je disais tout à l'heure sur le white flight, c'est-à-dire les effets de communautarisme blanc qui provoquent une ségrégation contre les minorités, c'est que ça peut basculer facilement. C'est-à-dire, une personne, ça va, mais quand il y en a trois, vous vous rappelez l'humour regretté de Brice Hortefeux. Donc, ou du regretté Brice Hortefeux. Mais je crois qu'il y a là quelque chose d'important, c'est que, effectivement, de manière générale, si on est blanc et que, par exemple, ça se passe mal avec son voisin, eh bien, on n'a pas besoin de se dire « c'est parce que je suis blanc ». C'est ça la différence. Parce que ça peut se passer mal aussi, mais on n'a aucune raison de penser que c'est parce qu'on est blanc. Je crois que lorsque on est noir, lorsqu'on est rome, lorsqu'on est arabe, lorsqu'on est asiatique, etc., eh bien, on doit constamment se demander, quitte parfois à s'exagérer cette logique, parce qu'on est amené à anticiper. Donc, en un sens, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a plus tendance à être paranoïaque quand on a de bonnes raisons de l'être. C'est-à-dire que ça peut amener, dans certains cas, à surestimer le racisme auquel on est confronté, puisqu'on ne peut pas savoir d'avance, mais on sait que c'est pas rare. Donc, en fait, je crois qu'il est important de voir que ça produit des mécanismes psychologiques qui ne renvoient pas forcément au fait que la personne qu'on a en face de soi est raciste. Elle peut être juste de mauvaise humeur, comme elle aurait été de mauvaise humeur avec quelqu'un d'autre. Néanmoins, on a de bonnes raisons, lorsque on a eu d'autres expériences qui faisaient qu'on pouvait être insulté ou qu'on pouvait avoir des regards de travers, ou que, etc. On a de bonnes raisons, lorsqu'on appartient à une minorité, de se dire « les gens ne sont peut-être pas très bien disposés à mon égard ».
Alors, il y a une autre règle qui est, enfin un autre principe qu'elle liste, qui est « je peux allumer la télé ou regarder la première page du journal et voir les gens de mon groupe racial largement représentés ». Puis, enfin, j'en vais en lire plusieurs comme ça, c'est un peu dans le même ordre d'idée. « Quand on me parle de notre héritage national ou de civilisation, on me montre que ce sont les gens de ma couleur qui en ont fait ce qu'il est ». Et du coup, voilà, je peux être sûre que mes enfants recevront des éléments scolaires qui témoigneront de l'existence de leur groupe racial.
C'est un peu
la question de la représentation et l'imaginaire collectif.
Effectivement, le symbolique, c'est important. Les représentations, c'est important. Et on sait bien que les représentations, elles reflètent une vision du monde majoritaire. Alors, c'est une question qui a été posée en partie, et en particulier par les femmes, en disant « et nous ?». C'est-à-dire où on voit bien les stéréotypes qu'il peut y avoir, y compris dans les manuels scolaires, où on va avoir papa en train de fumer sa pipe et de lire le journal, et maman en train de faire la vaisselle, ce genre de représentations classiques qui n'ont pas toujours disparu et dont on trouve des variantes aujourd'hui. Donc c'est vrai aussi pour les questions raciales, sauf que, en général, les femmes sont présentes, même si c'est dans des rôles secondaires, alors que les minorités raciales sont plutôt absentes. Donc c'est vrai dans les manuels scolaires, mais c'est vrai dans la littérature, c'est vrai à la télévision, etc. Bon. C'est des choses qui peuvent changer parce qu'il y a des batailles symboliques pour essayer que ça change. C'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a autant de batailles autour du théâtre. Parce que le théâtre, c'est le lieu par excellence de la représentation. Donc toutes les questions de blackface et tous les débats autour de Exhibit B, etc. Toutes ces batailles de la représentation, elles posent la question de savoir est-ce qu'une représentation de la société qui peut se jouer à l'Assemblée nationale, qui peut se jouer au théâtre, qui peut se jouer au cinéma, qui peut se jouer à la télévision, etc. etc. Est-ce qu'une représentation, c'est forcément une représentation majoritaire? Ou est-ce qu'il y a une place pour les représentations minoritaires? Alors on peut dire, mais il n'y a pas besoin de s'identifier toujours. Mais là encore, effectivement, il n'y a pas besoin de s'identifier quand ça va de soi. Quand ça va de soi, il n'y a pas de problème. Mais on est dans un monde où ça ne va pas de soi, l'ordre des choses, pour tout le monde également. L'ordre du monde va de soi inégalement selon qu'on est riche ou pauvre, selon qu'on est homme ou femme, selon qu'on est blanc ou pas.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, il y a deux autres énonciation, numéro 21, numéro 23, et quand je les lis, je pense beaucoup à Rokhaya. Alors c'est 21, on ne me demande jamais de parler au nom de tous ceux de mon groupe racial, et 23, je peux critiquer notre gouvernement et dire combien je crains sa politique et son comportement sans être considérée comme une déviante culturelle.
Ouais, c'est super intéressant parce que c'est ce que j'expérimente vraiment régulièrement, c'est qu'à chaque fois que j'émets une critique sur la politique relative à la politique française, en fait, on l'aperçoit comme étant vraiment une haine de la France.
C'est-à-dire si t'es que pas systématiquement, contente,
alors il y a l'option. Alors c'est-à-dire que ma présence est considérée comme optionnelle, donc on me dit que si je suis pas contente, je peux partir ailleurs. Ce qu'on dirait jamais aux gilets jaunes ou aux féministes qui vont marcher contre les violences faites aux femmes, puisque c'est des groupes qui sont perçus comme étant blancs.
Ou à moi.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est la vérité, effectivement. Et puis après, il y a le côté, elle déteste la France. Parce que forcément, on doit à chaque fois, préalablement à toute prise de parole, témoigner du fait qu'on aime la France, qu'on est content d'être là. Et après, dire oui, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas.
Des choses à améliorer.
Et ce truc-là aussi, pareil, de représenter le groupe, des gens qui me disent, mais elle représente pas les Noirs. Mais j'ai jamais dit que je représentais les Noirs ou les musulmans ou les femmes. C'est bizarre. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand je parle sur les questions raciales, on me dit, elle représente pas les Noirs. Et on me critique sur ça. Mais par contre, en tant que féministe, on m'a jamais dit, reproché de parler au nom de toutes les femmes. Parce qu'à l'évidence, étant la femme que je suis, on ne peut même pas imaginer que je puisse parler au nom de toutes les femmes. Donc c'est effectivement, c'est intéressant.
Ce que ça découle, c'est il y avait un hashtag à l'époque de où étiez-vous quand il y a Diallo. C'était que, en fait, où étiez-vous quand on a parlé de je sais pas quoi.
Oui, c'était Bassem, l'horrible blogueur, ou je sais pas comment on l'appelle, youtubeur, je sais pas quoi, qui avait tenu des propos homophobes. Et quelqu'un m'a demandé, mais elle a pas réagi au Kaya Diallo. Je me suis dit, bah apparemment, je suis la porte-parole de tous les Arabes et tous les Noirs de ce pays. Et dès qu'il y en a un qui dit.
Doit se désolidariser.
C'est ça. Je pense que je devrais faire un tweet automatique pour dire je me désolidarise d'un tel, un tel.
Mais je pense qu'effectivement, clairement, à nouveau, bah, c'est pas symétrique. C'est pour ça que je soulignais qu'on ne me demande pas de rentrer dans mon pays, parce qu'on présume que malheureusement c'est la France.
Mais, c'est très anti-français ce que tu viens de dire. Voilà.
Non, malheureusement, de leur point de vue. Moi, je suis neutre sur ce sujet. Ça, c'est quelque chose qui a des effets contagieux. C'est-à-dire qu'en un sens, même quand on est blanc, quand on tient un certain nombre de positions sur les questions raciales, on finit par être considéré comme traître à sa race. Ouais. Ce qui n'est pas la même chose. Je ne veux pas renvoyer dos à dos toutes ces questions, mais il y a un effet contagieux. Mmh. C'est-à-dire qu'en un sens, la race, c'est la production d'un étranger. D'un autre qui est à la limite un étranger. On voit ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis autour de Barack Obama. Barack Obama, c'était le président des États-Unis, le premier président noir. Qu'est-ce qu'il y a eu comme mouvement ? Un mouvement de birthers, c'est-à-dire qui remettait en cause son lieu de naissance, son certificat de naissance, en considérant qu'il ne pouvait pas être américain et que ça nous était caché. Bon, ça veut dire qu'on passait de la question raciale à la question nationale. Il ne pouvait pas être américain parce qu'on ne pouvait pas avoir un président noir aux États-Unis. C'est la même logique, c'est-à-dire il ne peut pas être d'ici. Et donc, en quelque sorte, ce qu'on dit à Rokhaya, ce qu'on dit, et malheureusement pas seulement à toi, c'est-à-dire que ça résume un mouvement plus général, ce qu'on te dit, eh bien, c'est vous pouvez faire partie des nôtres à condition de ne jamais oublier que vous n'en faites pas partie.
Ouais.
C'est-à-dire à condition de ne pas vous autoriser ce que nous revendiquons par ailleurs comme une propriété essentielle du génie français, c'est-à-dire l'esprit critique. L'idée dans notre société, c'est que la grandeur de la France, c'est le fait de pouvoir rire de tout, c'est le fait de pouvoir tout critiquer, etc. D'accord, mais ça c'est pour nous.
Ouais.
C'est pas pour vous. Ouais. Je crois que c'est comme ça qu'on produit de la race. C'est-à-dire que c'est pas encore une fois que les gens soient noirs ou asiatiques ou arabes, etc. C'est qu'on les produit comme tels. C'est pour ça que je reprenais tout à l'heure l'exemple aux États-Unis des Arabes qui basculent du mauvais côté après le 11 septembre. C'est important, je crois, de résister à la logique proprement de racialisation qui est d'assigner aux gens ces places-là et de bien voir que ces places, elles ne sont pas nécessaires. Elles peuvent changer dans l'histoire, elles peuvent changer dans le temps et elles peuvent changer dans notre propre expérience. Malheureusement, dans certains cas, elles donnent le sentiment de ne jamais changer. Mais il ne faudrait pas pour autant croire que ce sont des propriétés essentielles, substantielles, ce sont des propriétés historiques, politiques, et c'est pour ça qu'on se bat pour que ça change.
Alors d'autres principes, je peux parler la bouche pleine sans que les gens ne l'attribuent à ma couleur. Je peux jurer ou porter des vêtements de seconde main ou ne pas répondre à des lettres sans que les gens... Des lettres, on voit qu'on est en 88. Hein. Sans que les gens n'attribuent ces choix à une mauvaise moralité, la pauvreté ou l'analphabétisme lié à ma race. Et donc ça implique aussi la question de politique de la respectabilité où en fait on a des gens de minorité qui vont surinvestir une représentation très positive pour donner des gages en fait par rapport au fait que le moindre vêtement de travers, le moindre comportement qui serait considéré comme étant marginal sera considéré comme découlant du fait qu'on est un arabe, on est noir, donc si on parle fort, si on s'habille de telle ou telle manière...
Ça me rappelle vraiment les parents de certains enfants qui leur disent vraiment, il faut que tu t'habilles bien parce que ouais. L'apparence est très important, parce que nous si on fait un truc de travers, ça va nous retomber dessus, alors qu'à côté t'as les gamins des beaux quartiers qui peuvent être débraillés et tout le monde trouve ça trop mignon avec les cheveux dans tous les sens parce qu'ils sortent de l'école, alors que certaines personnes on leur autorise pas c'est même pas un défaut, mais c'est, oui, c'est juste une négligence, quelque chose de négligent en fait. Et par rapport à la bouche pleine, moi je trouve ça tellement, c'est vraiment des toutes petites choses, c'est-à-dire parler la bouche pleine, c'est vraiment un truc très infantilisant, c'est-à-dire qu'on dit aux enfants, ne parle pas la bouche pleine, ça fait mauvais genre, ça fait mauvaise éducation. Mais quand t'es adulte, on peut plus te dire ça. Et même si tu veux parler la bouche pleine, ce que je veux dire, c'est que toi, Eric, tu as beaucoup parlé du fait que C'est une charge, en fait. C'est une charge, on appelle ça la charge raciale. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de... On pense à tous ces trucs quand on n'est pas blanc. On dit, faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça. Ça peut être mal vu, ça peut être mal perçu. C'est vraiment pesant de devoir se poser toutes ces questions-là. Regardez qui est là pour pouvoir interagir. C'est pesant, en fait, cette charge.
C'est pesant, cette charge. Et à l'inverse, quand on ne l'a pas, on ne sait pas qu'on ne l'a pas. C'est ça, encore une fois, qui fait la différence entre les deux côtés de la question raciale. Si on prend, par exemple, le seul universitaire aux États-Unis que je me représente en costume trois pièces, c'est Cornel West. Pourquoi ? Bah, parce qu'il est noir. Et il le raconte bien lui-même.
C'est-à-dire... Toi, Eric, tu es en chemisette, en fait.
J'en ai peur. Mais il est vrai que là, c'est la radio. Donc, sinon, vrai. J'aurais peut-être fait un effort. Mais le Cornel West, il le raconte dans un livre qui s'appelle Race Matters. Ben, il est dans la rue, il appelle un taxi, le taxi ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas malgré son costume. Et ça, c'est un livre qui a été écrit dans les années 90. Et à ce moment-là, moi, j'avais pris conscience, à travers les États-Unis, de choses qui, bien sûr, ne sont pas propres aux États-Unis, parce que le racisme, ce n'est pas seulement là-bas. Simplement, ça m'a aidé, comme d'autres, à réfléchir à ce qui se passait ici. Mais aux États-Unis, y a une expression que je trouve très édifiante, qui est « driving while black », c'est-à-dire « conduire en état de noirceur ». Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on va vite, c'est suspect. Si on va lentement, c'est suspect. Donc, il faut aller juste à la bonne vitesse. Mais c'est quoi la bonne vitesse ? Ben, précisément, c'est ces différences-là qui font qu'on n'a pas toutes et tous la même vie. C'est-à-dire que, effectivement, ma chemisette ne me pose pas trop problème. Si j'étais une femme, je me serais davantage interrogée sur ma tenue avant de venir ici. Et si j'étais, disons, en représentation et que j'appartenais à une minorité, je serais obligé d'y réfléchir bien davantage, c'est-à-dire quels effets ça produit. Dans mon cas, je peux avoir le luxe de me dire « Oh, on s'en fiche, on va essayer d'écouter ce que je dis et je vais essayer d'écouter ce que vous dites et on va arriver à avoir une conversation sans se demander comment on est habillé. » Malheureusement, la question a été posée publiquement pour mon déshonneur.
Du coup, il y en a un que je trouve assez amusant, qui me rappelle des souvenirs, qui est le dernier principe, le 46, qui est « Je peux choisir de quoi couvrir une imperfection ou des pansements couleur chair qui correspondent plus ou moins à ma couleur de peau. » Et ça me rappelle une polémique assez dingue que j'ai déclenchée en faisant la même observation. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, si ça intéresse les gens, vous pouvez suivre le hashtag sur Twitter Sparadragate. J'avais parlé de la couleur des sparadras comme étant le symbole de la place des personnes minoritaires, en fait, qui doivent en permanence s'ajuster à une norme dominante qui n'a pas été pensée pour eux. Et dire que ça, c'était symboliquement le renvoi vers lequel elles étaient placées, puisque tout était construit avec l'idée qu'elles n'existaient pas. Et donc, du coup, j'avais pris ce symbole-là. Et ça a déclenché une espèce de polémique que je trouve intéressante parce que quand toi tu dis, Eric, on n'a pas à y penser, en fait ce sont des questions dont on n'a même pas conscience, on n'a pas besoin d'avoir conscience de leur existence pour mener une vie normale. Et en fait j'ai l'impression que quand tu exposes un certain nombre de personnes à l'existence de ces questions-là, ça peut les rendre extrêmement violents parce que vraiment, j'ai été cyberharcelée pendant 15 jours, mais par des gens qui manifestement n'avaient jamais entendu parler de cette question-là, mais qui ont préféré m'agresser parce que je ne sais pas ce que ça bousculait chez eux, mais c'était vraiment impressionnant. Au lieu de dire, bah tiens, c'est marrant, j'avais jamais pensé. Et ça fait sens, parce que personne n'a jamais dit que j'avais tort. En revanche, dire que mes préoccupations étaient insipides, que vraiment j'étais quelqu'un de vraiment stupide, ou que vraiment mon combat était risible, c'était assez spectaculaire.
Moi, je crois que je sais pourquoi les gens réagissent de manière aussi violente. C'est parce que ça oblige à se penser en tant que blanc. Donc, en fait, c'est là qu'on perd le privilège. Mmh. Au lieu d'être aveugle à sa propre couleur, et de n'être conscient que de la couleur des autres, eh bien, il faut se dire, si nous avons collectivement accepté de vivre dans une société où une partie d'entre nous sont définies par leur couleur, ou leur apparence, ou leur religion, ou leur origine, etc., eh bien, je ne peux pas être en dehors du jeu. On voudrait, évidemment, y échapper. Personne n'a envie d'être défini racialement. Ni les Noirs, ni les Arabes, ni les Asiatiques, ni les Blancs, ni personne. Simplement, on n'a pas toujours le choix. Et il se trouve que le choix, il est inégalement réparti et que c'est ça qui est remis en cause. Alors, ce qui est intéressant par ailleurs dans l'histoire du Sparadragate, c'est que, si je ne me trompe, la plupart des gens protestent avec intensité en disant « mais c'est pas important ». on se demande pourquoi déployer tant de hargne si ça n'a pas d'importance. On peut effectivement discuter en se disant « Oh, il y a des choses plus importantes ». On peut avoir cette discussion-là. Mais à ce moment-là, on doit discuter posément et ça ne doit pas nous empêcher de dormir. Mais si ça nous empêche de dormir et si on passe du temps sur les réseaux sociaux pour insulter la personne qui a soulevé cette question, ça doit bien vouloir dire que le symbolique, ça compte.
Là, c'est tout le paradoxe derrière le fameux « tu desserres ta cause » parce que c'est un peu ce qu'on t'a dit. C'est-à-dire que voilà ce à quoi est réduit l'antiracisme en 2018, d'Esparadra. Donc voilà, elle se bat pour d'Esparadra, voilà sa cause, etc.
Mais ce qui est drôle, c'est que ces gens-là ne sont pas là quand je dénonce, par exemple, les violences policières. C'est-à-dire que sur des combats qui sont vraiment des combats de vie ou de mort, eh ben, on ne les entend pas plus. Donc il y a un côté, quand on parle vraiment de racisme systémique, de racisme produit par l'État, etc., on va trop loin. Mais quand on parle de choses du quotidien, de pouvoir trouver un coiffeur ou un shampoing juste au petit supermarché du coin, etc., tout d'un coup, c'est complètement insipide. Et donc, c'est comme l'histoire de conduire. C'est que, quel est le juste milieu ? Qu'est-ce qui est suffisamment acceptable en termes de dénonciation pour faire l'objet d'un consensus, en fait, rien, puisque chaque fois, ça renvoie à une responsabilité implicite et il y a une position politique, quoi.
En même temps, j'espère aussi que pour toi, comme pour vous deux, comme pour toutes les personnes qui sont dans cette situation, bah, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre comme une forme de reconnaissance.
une
reconnaissance
même.
paradoxale
c'est
et coûteuse.
C'est
et coûteuse, bien entendu, je ne veux pas le minimiser. Mais déranger, après tout, n'est pas une mauvaise chose.
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai.
Même si je ne minimise pas le coût personnel. Mais quand même, politiquement, on n'a pas envie que les gens trouvent que ce qu'on raconte ne pose aucun problème.
Ouais. Oui, non, surtout sur une question comme ça, j'imagine que si ça ne suscite aucune controverse, c'est qu'on on passe à côté du sujet.
Et à ce moment-là, on ne parlerait pas du sparadrap.
et ce que tu as dit, le fait que ce soit très pénible pour les personnes blanches de se penser comme blanc, c'est inversement proportionnel au fait qu'on parle énormément de racisme anti-blanc. Et donc, moi, j'ai vu que tu avais fait des vidéos, que tu avais fait des interviews, notamment vidéo, sur Brut, il me semble, où tu...
France Culture.
Pour dire très posément et très clairement que au niveau scientifique, pour les sciences sociales, ça n'existait pas. Et il y a vraiment un déni... le déni qui peut exister, et puis le déni du privilège et la volonté de reconnaître un privilège blanc, d'un racisme anti-blanc, pardon, est tellement fort. C'est deux choses qui sont pareilles, en fait.
Dans mon cas, dans cette histoire, là, j'ai été frappé par l'intensité des réactions cette fois-là sur ça, très virulente. Enfin, voilà, je vais pas les énumérer, mais c'est des attaques très haineuses, des menaces, etc. Et j'essaie d'analyser pourquoi. Et parce que ce que je dis n'est pas d'une originalité folle, même à mes propres yeux. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression de faire de la pédagogie simple, de raconter ce qui est le sens commun des sciences sociales. La preuve, on ne trouve pas d'article qui parle de ces questions-là en termes de racisme anti-blanc, etc. Bon. Donc, j'ai l'impression de ne rien dire de très original. Pourquoi c'est gênant ? Premièrement, parce que je le dis dans l'espace public. Deuxièmement, parce que je le dis au nom des sciences sociales, et à ce moment-là, on me dit soit les sciences sociales, c'est pas des sciences, soit je ne représente pas les sciences sociales, soit les deux, paradoxalement. Et enfin, il y a quelque chose d'autre, c'est qu'évidemment, celui qui dit ça, tout le monde voit bien, puisque ce sont des images, qu'il est blanc. Et donc, je crois que la virulence, elle tient à ça, c'est-à-dire pouvoir inverser la position habituelle, qui est la science qui, en quelque sorte, effacerait la question raciale, là, au contraire, qui dit, quand même, tout ça n'est pas symétrique. Et le fait que ce soit un discours tenu par une personne blanche, veut dire qu'on ne peut pas simplement dire, oh là là, c'est un noir, c'est un arabe, c'est un asiatique, et ils sont en train de se plaindre, ils revendiquent d'être des victimes. Là, justement, je revendique de ne pas être une victime. Et je crois que c'est ça qui provoque la violence, c'est-à-dire que ça pose la question de ma couleur, même si je n'ai pas besoin de la nommer dans cette vidéo, c'est ça, je crois, qui se joue.
Merci beaucoup, c'est un enjeu de taille. Hein. Malheureusement, on aurait volontiers poursuivi la discussion, mais on arrive à la fin de ce numéro de Kif Taras consacré à la blanchité et en particulier au privilège blanc. Merci beaucoup Eric Fassin de nous avoir accompagnés et livré ton expertise et aussi ton expérience. Hein. C'est important pour les universitaires de se positionner en tant qu'êtres sociaux et c'était intéressant d'avoir ta perspective aussi.
J'ajouterais juste un mot. En fait, pour ma part, quand je critique ces privilèges, qui sont aussi les miens, ça n'est pas pour entrer dans une logique de culpabilité. Mmh. Au fond, ma culpabilité, personne n'en a rien à faire. Ça ne va pas aider qui que ce soit si je bats ma coulpe en rentrant ce soir chez moi. En revanche, ça crée une responsabilité. Et la responsabilité, c'est d'essayer de rendre lisible ce qui se passe, ce dont je suis à certains égards bénéficiaire, mais ce qui, en même temps, est coûteux pour d'autres. Pas de culpabilité, mais une responsabilité.
Merci beaucoup.
Merci pour ces mots très sages. Merci Eric. Vous pouvez nous écrire pour nous faire part de vos opinions sur l'échange que vous venons de mener avec Eric Fassin. Vous pouvez nous écrire à kiftaras@binge.audio ou nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant @kiftaras sur Twitter et sur Facebook avec le hashtag kiftaras.
Kiftaras est un podcast de Binge Audio réalisé par Charles Westrelin. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro. Merci beaucoup Grace.
Merci Rokhaya.
Merci Eric.
Merci Grace et Rokhaya.